Les matins de France Culture.
Et tout de suite, la revue de presse internationale avec vous, Thomas Cluzel. Bonjour.
Bonjour, Florian.
Et ce matin, la pression monte, Thomas.
Oui, l'information n'a été confirmée que cette nuit. Et pour autant, elle fait déjà la une ce matin de toute la presse britannique. Preuve sans doute que le sort de Amber Rudd était en réalité scellé depuis plusieurs jours. Hier soir, la ministre britannique de l'Intérieur a présenté sa démission. À ce titre, d'ailleurs, les versions divergent. A-t-elle réellement démissionné, ainsi que l'écrivent en première page The Independent, The Guardian ou The Daily Telegraph, ou bien a-t-elle plutôt été forcée de quitter son poste, comme le suggère The Times, ainsi que The Daily Mail. C'est vrai que sa position était devenue intenable après deux scandales successifs. Tout d'abord, celui dit de Rindlerush sur le traitement des immigrés d'origine caribéenne arrivés au Royaume-Uni après la Seconde Guerre mondiale. Et puis, la ministre s'était à nouveau retrouvée en difficulté la semaine dernière lorsqu'il est apparu que ses services avaient des objectifs chiffrés pour refouler les immigrés clandestins. Mercredi dernier, devant une commission parlementaire, Amber Rudd avait dans un premier temps nié avoir connaissance de tels objectifs, sauf que depuis la publication par The Guardian d'un document intérieur semblant prouver qu'elle était bel et bien au courant a rendu sa ligne de défense de moins en moins tenable. Alors ces chiffres controversés sur ces expulsions doivent être débattus aujourd'hui devant le Parlement. Et en ce sens, note toujours le journal de la capitale, la ministre s'est donc retirée juste à temps pour éviter une convocation éprouvante devant la Chambre des communes. Enfin, ainsi que le souligne The Independent, cette nouvelle démission, la quatrième d'un membre du gouvernement en seulement 6 mois, est un coup dur pour Theresa May, dont les maux de tête, écrit le journal, devraient encore s'accentuer cette semaine avec des élections locales à valeur de test pour son gouvernement.
Et puis après un sommet historique vendredi, le tourbillon diplomatique intercoréen se poursuit.
Oui, première mesure pratique pour la réconciliation. L'agence officielle nord-coréenne KCNA a annoncé que le Parlement avait adopté ce matin un décret pour avancer ses horloges de 30 minutes et revenir ainsi à la même heure locale que celle de son voisin du Sud. Autre geste de bonne volonté hier, Kim Jong-un s'est dit prêt à démanteler son site d'essai atomique en présence d'experts étrangers, une manière sans doute de rassurer les plus sceptiques pour qui le doute est encore permis quant aux véritables intentions du leader nord-coréen. Le journal Le Temps en particulier rappelle que la déclaration signée vendredi dernier n'est pas le premier document du genre, que lorsque Kim Jong-un se fixe pour objectif de dénucléariser la péninsule, ce n'est pas non plus tout à fait nouveau. Et enfin que si les deux chefs d'État s'engagent à signer la paix, là encore, ce n'est pas une première, même s'il y a cette fois-ci un calendrier. Alors dès mercredi, on pourra juger des premiers engagements réciproques. Ce jour-là, tout acte hostile devra désormais être proscrit, y compris la guerre de propagande, concrètement précise toujours le journal. Cela signifie que le Nord devra démanteler ses haut-parleurs installés à la frontière et que le Sud devra en retour stopper les actions de ces groupes de militants convoyant par ballon leur prospectus anticommuniste par-delà la frontière. Et puis surtout, la balle est désormais dans le camp du président américain, note The New York Times. Le succès de la rencontre de vendredi met en effet la pression sur Donald Trump pour qu'il poursuive cette dynamique vers la paix, ce qui n'est pas gagné, reconnaît l'éditorialiste, avant toutefois d'ajouter. Mais après tout, même si ces discussions ne servaient qu'à tenir éloignés du bouton nucléaire deux hommes impétueux et imprévisibles, le monde ne s'en porterait déjà que mieux.
Et en attendant, c'est une autre décision du président américain qui retient l'attention de la presse.
Oui, d'ici 2 semaines, Donald Trump doit rendre son verdict concernant l'accord sur le nucléaire iranien. Et même si à Washington, on assure que le président n'a pas encore tranché, force est de constater que la tournée au Proche-Orient du tout nouveau secrétaire d'État américain dresse pour l'instant les contours d'une ligne dure, écrit The Time. Hier, lors de 2 brèves visites en Arabie Saoudite et en Israël, 2 alliés stratégiques des États-Unis qui considèrent l'Iran comme leur ennemi et sont hostiles à l'accord sur le nucléaire, Mike Pompeo a déclaré « L'ambition de l'Iran reste de dominer le Moyen-Orient ». Alors sur ce dossier aussi, celui qui attend de la clarté et de la fiabilité de la part de Donald Trump peut probablement oublier l'idée, juge la Süddeutsche Zeitung, le journal qui ne saurait que trop conseiller à Donald Trump de lire et relire encore cet accord pour constater que même si tout ne va pas bien en Iran, ce contrat éloigne au moins le pays de la bombe. Une analyse partagée par son confrère de la Frankfurter Allgemeine Zeitung. Certes, l'accord ne règle pas la question de l'agressivité de l'Iran, dit-il, mais sans celui-ci, le pays serait en plus libre de construire sa propre bombe. Or, si de son côté l'Iran peut tirer un enseignement des récents développements de l'actualité, c'est certainement de constater combien il est utile de posséder justement un arsenal nucléaire, remarque The Independent. Car il est évident, écrit le journal, que la soudaine disposition de Trump à faire des compromis avec la Corée du Nord est uniquement due à la capacité du pays à développer des armes susceptibles de menacer directement les États-Unis. En d'autres termes, les Américains seraient-ils aussi péremptoires avec les Iraniens si ceux-ci disposaient de têtes nucléaires ? Interroge toujours le journal. C'est en tous les cas la question qu'on se posera à Téhéran. Enfin, si aux États-Unis, certains craignent que la réimposition unilatérale de sanctions contre l'Iran n'isole les États-Unis sur le plan international. D'autres, à l'instar du Wall Street Journal ce matin, jugent que les Européens, lesquels continuent de soutenir largement cet accord, ne pourront de toute façon jamais choisir l'Iran plutôt que les États-Unis. Et pourquoi ? Tout simplement car aucun pays, dit-il, ne peut fonctionner économiquement en se coupant de l'Amérique.
Merci Thomas Cluzel.